Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
Radio. Hier, c'est en toute fin d'émission, à peu près dans ces heures-ci, qu'on découvrait l'identité. En même temps, ça nous confirmait que c'était bel et bien une madame de Saint-Hubert qui était à l'origine de ces lettres envoyées au président Trump avec du poison dedans, de la ricine.
Ouais, et l'acte d'accusation a été déposé aujourd'hui dans un tribunal de Buffalo, donc contre cette dame de Saint-Hubert, Pascale Ferrier, qui, donc on en a su plus un peu, parce que dans les lettres, évidemment, elle écrit à Donald Trump en partie pour lui dire qu'elle lui demande d'abandonner et de retirer sa candidature aux prochaines élections.
C'est bien raisonnable comme demande.
De lui demander, bon, lui offrir une porte de sortie, oui. On peut dire. Mais donc, en lui disant qu'elle a un cadeau spécial pour l'aider à prendre une décision. Évidemment, on retrouvait dans cette lettre-là de la ricine, et en disant, s'il ne fonctionne pas, je trouverai une meilleure recette pour un autre poison, ou sinon utiliser son fusil quand elle pourra revenir, alors qu'elle devrait, elle pourrait.
Et elle avait une arme, de fait.
Elle avait une arme, effectivement, chargée sur elle, alors elle pourrait, on sait, passer le reste de ses jours en prison si elle est reconnue coupable.
La ricine, parlons-en. Pierre-André Dubé est pharmacien toxicologue à l'Institut national de santé publique. Bonjour, M. Dubé.
Bonjour.
On, dans les articles sur ce sujet, il y avait à peu près partout un paragraphe disant la plus mortelle, le plus mortel des poisons d'origine végétale.
Ouais, là, on exagère un peu, là, mais... Ouais. Je peux remettre tout ça un peu en perspective. Là, c'est d'où vient la ricine et pourquoi on s'en intéresse actuellement. En fait, les armes de destruction massive là, comprennent ce qu'on appelle les CBRNE, donc les armes chimiques, les armes biologiques, radiologiques, nucléaires et les explosifs. Si on prend plus spécifiquement les armes biologiques ou le bioterrorisme, le Centre de contrôle des maladies des États-Unis, qu'on appelle le CDC, a identifié environ 30 organismes ou substances qui sont susceptibles d'être militarisés pour être utilisés comme armes biologiques. Donc, ils ont classé en trois grandes catégories selon leur facilité de diffusion, par exemple, si c'est en forme aérosol, c'est quoi les risques à la santé, les risques de mortalité, c'est quoi le potentiel que ça peut faire, comme par exemple, de créer une panique dans le public, ou encore, c'est quoi le niveau d'intervention de la santé publique qui serait nécessaire pour prendre en charge cette attaque-là. Fait qu'en gros, si on prend la catégorie A, il y a la catégorie A, B et C. La catégorie A, c'est la plus dangereuse. Donc, toutes les maladies prioritaires, là, on va prendre, par exemple, l'anthrax, le botulisme, la peste, la variole ou encore Ebola. Ça, c'est dans les catégories les plus dangereuses. Après ça, dans les armes biologiques. Dans la catégorie B, c'est celles qui sont plus faibles à modérer parce que ça fait pas tant de mortalité que ça. Et c'est plus difficile à disséminer où la ricine, elle est incluse dans cette catégorie.
OK, donc elle est dans cette catégorie-là.
Oui, ça fait qu'elle n'est pas dans la catégorie.
Parce que c'est pas, ça s'en va pas dans l'air, là. C'est pas quelque chose qu'on pourrait respirer. C'est quelque chose qu'il faudrait inhaler ou ingérer ou prendre physiquement, là.
Ben c'est ça. Dans le fond, la ricine elle-même, là, elle est irritante, elle est allergisante, elle est potentiellement toxique. OK? Fait que dans l'organisme, la toxine va produire ce qu'on appelle un arrêt de la fabrication des protéines qui va tuer nos cellules. Mais ces effets-là, l'effet de cette mort cellulaire-là va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, est-ce que la ricine est présente sous quelle forme? Vous l'avez dit, est-ce que c'est en forme de poudre ou en forme de liquide? Est-ce qu'elle est concentrée à 1% ou à 100%? Si j'ai une poudre qui est concentrée à 1% de ricine, c'est pas la même chose que si elle est 100% de ricine. Mm-hmm. Après ça, la voie d'exposition, vous en avez parlé, la dose. Donc, les gens peuvent en recevoir, puis si c'est dans l'air, par exemple, là, on peut l'inhaler, ça peut se retrouver dans nos poumons, puis après ça, se retrouver dans notre sang. Soit qu'on se le fait injecter, on l'ingère, donc on l'avale, par exemple, la nourriture ou de l'eau qui est contaminée, ou encore le contact avec la peau puis les yeux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comparativement à certaines maladies, c'est pas transmissible. Tu sais, par exemple, vous avez... pris de la ricine, que vous êtes intoxiqué, vous touchez à votre collègue, il deviendra pas intoxiqué, là.
Non, je comprends. C'est pas un virus, c'est pas quelque chose de contagieux. C'est un produit poison. Point.
C'est ça.
D'origine, c'est quoi? D'origine végétale. Donc, c'est une plante. Est-ce que c'est une plante qui existe au Canada? C'est une plante qu'on peut retrouver dans la nature ou c'est une plante que des bandits cultivent?
Non, ben, c'est une plante, en fait, c'est une plante ornementale, en général, là, qu'on appelle le ricin. c'est un peu mêlant. La plante s'appelle l'oricine, puis la toxine s'appelle l'oricine.
OK.
Mais qu'on retrouve principalement dans les graines d'oricin. Puis c'est utilisé là pour plusieurs. En fait, les graines d'oricin sont utilisées pour extraire l'huile d'oricin qui est à l'intérieur. Et la ricine va se retrouver comme un produit secondaire quand on fabrique cette huile-là. Ça peut être utilisé pour toutes sortes de choses, là, dans des shampoings pour avoir des beaux cheveux, ou encore comme purgatif parce que c'est un irritant du système intestinal, donc ça va aider à évacuer nos intestins, là, dans le fond. Mais quand on fait cette huile-là, le chauffage dans le processus de fabrication tue la toxine, donc on n'en retrouve pas.
Ah, OK.
Si on l'isole, par exemple, là, faut vraiment faire un travail de moi, je vais isoler la ricine.
Ouais, mais là, j'arrive à notre madame, là, faire le poison, la ricine, là, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Je veux dire, un citoyen peut pas faire ça chez eux avec son blender puis son micro-ondes, là. Je veux dire, ça prend un laboratoire chimique, ça prend des pros, non?
Ben, j'aime mieux pas te donner de recette.
Non, ça, je vous comprends, mais la dernière fois, je vais poser ma question autrement. Est-ce que c'est quelque chose de difficile, non?
Ça dépend de quoi qu'on parle.
OK.
Mais tu sais, ce qui est difficile dans ce cas-ci, c'est que si on revient au fait qu'elle a envoyé une lettre au président qui contenait de la poudre de ricine, c'est un risque qui est quand même relativement faible d'empoisonnement pour le président. Parce que si on oublie d'emblée l'ingestion puis l'injection, parce qu'il ne se dira pas, mais quelle poudre je vais l'ingérer, ou si on ne l'injectera pas. En tout cas, ça serait drôle, là.
Ouais, je comprends.
C'est encore drôle. Mais sinon, les risques, là, c'est en ouvrant la lettre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la poudre pourrait se retrouver dans l'air. On pourrait en recevoir sur la peau ou dans les yeux. C'est principalement ça. Puis pour inhaler la ricine, puis que ça s'affrande jusqu'au poumon, puis que ça passe toutes les bronches, ça s'affrande jusqu'aux alvéoles pulmonaires, il faut que les particules soient très, très, très petites, donc environ un diamètre là, inférieur à 10 micromètres. Soit, je vous donne un ordre de grandeur, là, c'est 5 à 10 fois plus petit que la largeur d'un cheveu.
Donc, c'était pas vraiment. On ne sait pas exactement ce qu'elle a envoyé, mais à première vue, c'était probablement pas aussi dangereux qu'elle le pensait. Est-ce que ça aurait pu, par exemple, pour le. Je sais pas, mais le postier, les gens au centre de tri, si l'enveloppe n'est pas bien cachetée, est-ce que ça aurait pu représenter un danger pour les gens qui ont manipulé l'enveloppe?
Non, je pense pas, parce que s'ils reçoivent de la poudre sur la peau, c'est pas absorbé. Fait qu'ils n'auront pas d'effet systémique, on va dire, dans tout le corps. Ils ne se retrouveront pas à avoir, par exemple, de l'œdème des poumons puis décédés parce qu'ils sont étouffés dans leur sécrétion. Là.
Ouais.
Dans le fond, s'ils reçoivent de la poudre, ils vont se laver les mains et ils n'auront aucun effet. Là.
Ouais. Mais ingérer, c'est aussi, mettons, mortel que le cyanure ou ce genre de produit dont on dit bon c'est létal dès qu'il y a consommation?
Ben, en fait, toute substance est létale, ça dépend de la dose.
Ouais.
Puis ça dépend comment on a réussi à extraire la ricine du ricin, puis à le concentrer, mais effectivement, ça prend. Là, on parle en termes de microgrammes, une dose qui peut être létale.
Ce qui est vraiment pas beaucoup, donc, ça veut dire que c'est très létal.
C'est pas beaucoup. C'est très létal, oui. Je dis pas que c'est pas létal. Ce que je dis, c'est que la façon que ça a été fait ici, la poudre ne se retrouvera pas, elle est pas aérosolisée dans une. Dans un dispositif permettant que la poudre se retrouve dans l'air pour intoxiquer tout le monde. Mais c'est pas sous forme d'arme, ça, je veux dire.
Je comprends bien. Ben merci pour ces explications. Pierre-André Dubé, pharmacien toxicologue à l'Institut national de santé publique. Au revoir.
Au revoir.
Et Vincent, pendant que je parlais, j'ai Félix Séguin là, qui, je pense, est au courant de ce qui se passe à Buffalo.
Oui.
Et il semble que la dame... ça peut moquer du tribunal, juste pour aider sa cause. Elle aurait, devant le tribunal à Buffalo, nié sa propre identité.
Ah, bon. Elle veut jouer à la plus fine.
Ça doit marcher devant un tribunal, devant un tribunal aux États-Unis,
je
ça?
Je pense pas. Ou ça changera pas grand-chose dans la mesure où elle s'en va peut-être en prison à vie, là.
Ouais, c'est peut-être ça. Ah, tu le vois.